bon pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Le 16 octobre se tenait la Journée internationale d'action pour la souveraineté alimentaire des peuples. Pour cette occasion, nous avons interviewé Morgane, maraîchère dans le Morbihan, de Via Campesina. Dans le cadre de cette journée, le 17 octobre, a eu lieu à Rennes une manifestation des éleveurs et éleveuses de poulets en plein air. Dans une deuxième partie d'émission, nous parlerons avec Yannick Ogor, auteur de « Le paysan impossible », de l'histoire récente de l'industrialisation de l'agriculture et de la progressive interdiction de l'élevage en plein air au profit des grands groupes agro-industriels.
Bonjour Morgane.
Bonjour.
Alors toi tu es paysanne dans le Morbihan et tu fais partie de Via Campesina.
Oui, alors je fais du maraîchage dans le Morbihan et je fais partie de la Confédération Paysanne et la Confédération Paysanne fait partie de la Via Campesina.
D'accord. Alors peut-être pour commencer, tu pourrais nous présenter un peu Via Campesina.
Alors, Via Campesina, c'est le mouvement paysan mondial et c'est un mouvement qui regroupe 182 organisations en Asie, en Afrique, sur le continent américain et en Europe et qui représente environ 200 millions de paysans et de travailleurs agricoles dans le monde.
D'accord, on connaît pas mal Via Campesina par rapport aux paysans sans terre aussi.
Voilà, le mouvement des sans-terres au Brésil, le MST, fait partie de la Via Campesina, mais tout comme plein d'autres organisations paysannes et de travailleurs agricoles un peu partout.
D'accord. Alors, le 16 octobre, c'était la journée internationale d'action pour la souveraineté alimentaire des peuples. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer ce que c'est que la souveraineté alimentaire?
Alors, la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose dont nous, la Via Campesina, on en parle depuis 1996, c'est le droit des peuples de décider comment est-ce qu'on produit l'alimentation, comment est-ce qu'on distribue l'alimentation, et c'est le droit de pouvoir décider des politiques agricoles et alimentaires. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en décider jusque-là? Eh bien parce que dans ce monde capitaliste, en fait, on y dit toujours non, c'est le marché qui doit décider. Et c'est donc toujours la loi de la compétition et du moins cher, de la compétitivité, qui devrait décider comment est-ce qu'on s'alimente. Et ça, très tôt, les organisations paysannes, elles se sont rendues compte que ça menaçait la survie des paysans et des paysannes, parce qu'on n'est pas capable de produire toujours moins cher, on n'est pas capable de rogner sans cesse sur nos revenus. Et produire moins cher, ça veut souvent dire produire avec plus de pesticides, plus d'agrotoxiques. Et donc c'est aussi une catastrophe pour la santé à la fois des producteurs et des productrices d'alimentation, mais aussi de ceux et celles qui consomment l'alimentation.
D'accord, donc là c'est vraiment une volonté d'avoir la main à la fois sur de la production jusqu'à la consommation.
Voilà, c'est ça. C'est de se dire que l'alimentation, c'est un sujet démocratique, c'est un sujet dont on doit discuter et décider démocratiquement dans chacun des pays. En fait, il faut comprendre que la souveraineté alimentaire, ça s'est construite contre l'idée que la sécurité alimentaire serait assurée par les marchés mondiaux. En 1996, on est une année après la création de l'Organisation mondiale du commerce, Et c'est vraiment le summum de l'idéologie selon laquelle ce sont les marchés internationaux et les avantages comparatifs et tout ça qui vont régler le problème de la faim dans le monde. Et en fait, déjà en 95, en 96, mais encore plus après la crise alimentaire de 2008 et encore plus maintenant, on se rend compte que c'est pas vrai. En fait, dès qu'il y a un petit bout de crise qui pointe son nez quelque part, les prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux explosent et toutes les populations qui dépendent des marchés internationaux et des multinationales agricoles pour se nourrir, et ben ces populations-là, la faim, elle augmente de façon terrible. Ça, aujourd'hui, dans le monde, il y a 193 millions de personnes qui ont faim alors qu'on produit de l'alimentation pour nourrir plus d'une fois et demie la population mondiale. Donc c'est pas un problème de quantité, mais c'est vraiment un problème de spéculation et d'accaparement de l'alimentation pour faire du profit plutôt que pour assurer l'alimentation des gens.
Et on s'en rend compte particulièrement dans cette période de soi-disant crise alimentaire où on voit actuellement les produits de première nécessité, même en France, exploser alors qu'on ne comprend pas bien les raisons de cette augmentation des prix.
Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que les supermarchés sont pleins d'alimentation, mais pour autant, il y a 12 millions de personnes en France qui ne peuvent pas s'acheter de l'alimentation et qui doivent dépendre des banques alimentaires pour se nourrir. Et ça, cette réalité, elle est là partout dans le monde. Donc ce n'est pas un problème de quantité d'alimentation produite dans le monde, mais bien un problème d'accessibilité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas assez d'argent pour aller acheter l'alimentation au prix auquel ils sont définis. Et pendant ce temps-là, il y a des multinationales agroalimentaires qui font des profits records. Il y a les profits de Cargill qui ont été rendus publics la semaine dernière. Cargill, qui fait partie des quatre plus grosses multinationales de commerce de céréales dans le monde, ils ont fait un profit record sur les deux premiers trimestres 2022, plus 35% comparé à l'an dernier. Donc quand même plus 35%, c'est énorme. Et l'an dernier, c'était déjà leur année de profit record. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas un problème naturel, la faim. C'est qu'il y a des profiteurs de la faim. Il y a des entreprises qui font des profits records. Et pendant ce temps-là, il y a une grande partie de la population mondiale qui peut plus acheter son alimentation, qui peut plus se payer l'alimentation. Et les paysans, eh ben nous, on est aussi victimes au deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que, d'une part, pour produire de l'alimentation, souvent, il faut acheter une partie des... De matières premières. Et donc, quand les prix agricoles flambent, c'est pas nous qui gagnons plus d'argent, mais au contraire, on doit d'un côté acheter, par exemple, de l'alimentation animale beaucoup plus cher, et les prix auxquels on vend nos produits de base, bah, nous, ils augmentent pas. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a des intermédiaires. Typiquement, ces grosses firmes de commerce mondial de céréales, on les appelle les ABCD. C'est A, c'est Archer Daniels Midlands. B, c'est Bunge. C, c'est Cargill. Et D, c'est Louis Dreyfus. Il y en a trois américaines et une néerlandaise. Et ben, ces intermédiaires-là, ils font exploser leurs marges. Et c'est eux qui prennent toute la valeur produite par les paysans et qui rendent l'alimentation à des prix complètement fous et inaccessibles pour une grande partie de la population mondiale.
Alors tu disais tout à l'heure qu'on produisait suffisamment pour nourrir largement l'ensemble de la population mondiale. Et pourtant, bon, on le voit en France à une petite échelle, mais il y a quand même des pays entiers ou des régions entières qui produisent et pourtant qui n'ont pas accès à la nourriture.
Oui, parce qu'en fait, ces grosses firmes agro-industrielles, elles produisent pas tant d'alimentation, mais des produits agricoles qui sont pas nécessairement destinés à l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a une part grandissante de la production agricole qui est détournée notamment vers des usages énergétiques. C'est-à-dire qu'on préfère utiliser les produits agricoles pour faire rouler les voitures essentiellement, pour faire des agrocarburants, plutôt que pour nourrir les populations. Donc ça, c'est une des raisons. D'autres usages de produits agricoles, c'est une grande partie de l'huile de palme, elle est utilisée pour faire... pour la mécanique ou alors pour des cosmétiques et absolument pas pour l'alimentation. En fait, le problème de la crise alimentaire, c'est un problème essentiellement d'accaparement. C'est-à-dire que c'est un phénomène très lié au capitalisme, où il y a des multinationales qui s'accapare tous les biens communs, toutes les ressources nécessaires pour produire de l'alimentation, les terres,
l'eau,
les semences, contre les petits producteurs et productrices d'alimentation. Et ce sont ces populations-là qui très souvent se retrouvent à être les premières à avoir faim. Dans ces 193 millions de personnes qui ont faim dans le monde, il y a une très grande majorité de ruraux et de paysans qui se font piquer leurs terres, qui se font piquer l'eau et les semences, et qui du coup ne parviennent plus à s'en sortir.
D'accord, très bien. Après avoir brossé un petit peu, peut-être on a oublié des choses, hein, si tu vois des choses importantes à rajouter, n'hésite pas. Mais dans cette journée internationale d'action pour la souveraineté alimentaire des peuples et contre les multinationales, donc vous allez entamer une série d'actions dans les jours qui viennent, c'est ça ? Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ?
Ben c'est ça. En fait, nous, on fonctionne avec des actions décentralisées. Donc, ce sont les organisations membres de la Via Campesina, donc dans la petite centaine de pays où on a des organisations membres qui font des actions. Et cette année, vu le contexte, ce sont énormément d'actions contre la spéculation, contre ces multinationales qui spéculent sur le dos à la fois des paysans et des paysannes, mais aussi des populations pauvres. C'est vraiment l'axe qu'on a souhaité prendre cette année. Parce qu'on fait face à une crise alimentaire, mais qui n'est pas, encore une fois, pas une crise naturelle, mais vraiment une crise construite par les multinationales pour qu'elles continuent à se faire plus de profit.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus un peu sur les cibles et puis les actions concrètes que vous allez entamer ?
Eh ben, selon les pays, ça dépend un peu parce qu'il y a souvent dans les pays, il y a des revendeurs d'alimentation animale qui sont liés à ces quatre grosses firmes, mais qui ont des noms différents. Par exemple, en Tunisie, il y a des actions importantes contre les revendeurs d'alimentation animale, qui sont essentiellement trois firmes tunisiennes liées à des milliardaires tunisiens. Et les paysans, notamment du sud de la Tunisie, se révoltent contre le fait que le prix de l'alimentation animale augmente sans cesse, et donc ils ne peuvent plus se permettre d'acheter l'alimentation animale. Et vu le niveau de sécheresse qu'il y a eu cette année, ils ont aussi fait face, comme en Europe, à une grosse sécheresse. Ils n'ont pas le fourrage nécessaire pour alimenter leurs vaches. Et du coup, toutes ces dernières semaines, mais encore là, avec ces journées mondiales d'action, ils en profitent pour bloquer les routes, alerter le gouvernement, enfin voilà, se mobiliser pour demander à ce qu'il y ait une limitation de la marge de ces entreprises qui revendent les céréales et le soja et qui font que eux derrière ils n'arrivent plus à s'en sortir.
En fait, c'est une demande aussi de bloquer en fait les prix.
Voilà, ils demandent de bloquer les prix, mais pas seulement, parce qu'en l'occurrence, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que le gouvernement avait bloqué les prix, mais les entreprises revendeuses de céréales pour l'alimentation animale, du coup, elles ont changé la composition de l'alimentation animale. Et du coup, ils ont vu, la composition, elle a été dégradée, et donc ils ont vu la santé de leurs animaux en pâtir. Donc c'est pas seulement bloquer, il faut bloquer les prix, mais il faut aussi s'assurer que derrière, il n'y ait pas de filouterie, typiquement, qui ne changent pas les compositions pour continuer à faire monter leur taux de marge. Quoi.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que nous, dans les grandes villes, puisqu'on est quand même une radio parisienne, ou en tous les cas d'Île-de-France, on voit dans les magasins, tout est plein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et on s'interroge rarement sur l'augmentation des prix des denrées, et puis sur comment c'est produit, qui le produit, est-ce que les paysans s'en sortent, ou pas, on a l'impression de quelque chose qui roule sans vraiment s'interroger sur le pourquoi du comment. Donc c'est important pour nous aussi, dans notre radio, de parler un petit peu de toutes ces questions-là, plus aussi liées au monde paysan, puisque comme tu le disais toi-même, ça rejaillit sur notre alimentation à tout le monde. Donc c'est important. Est-ce qu'il y a sur la France des actions prévues ?
Oui, alors il y a aujourd'hui par exemple une action qui a lieu à Rennes pour défendre l'élevage plein air, parce qu'il y a plusieurs crises qui se superposent, mais une des crises qui existe à l'heure actuelle, elle est liée à la grippe aviaire. Et la grippe aviaire, c'est une maladie qui touche les poulets, qui est très liée au système de production industrielle des poulets. Mais pour y faire face, la décision du gouvernement, c'est de supprimer les élevages finalement les plus vertueux. Les élevages plein air, les élevages bio, les élevages où il y a les meilleures conditions pour les animaux. C'est de dire, vous êtes obligé d'enfermer vos animaux, sinon vous n'êtes pas réglementaire et vous allez avoir des amendes. Et donc les producteurs qui produisent de la volaille et qui sont en plein air sont en manifestation aujourd'hui à Rennes pour protester contre ces règles et pour dire en fait non, c'est au niveau de l'élevage industriel qu'il y a un problème et donc c'est au niveau de l'élevage industriel qu'il faut faire bouger les choses.
Absolument. Et par rapport à ça, déjà la Chine emploie ces méthodes-là. C'est-à-dire elles interdisent l'élevage en plein air. C'est quand même un paradoxe assez extraordinaire, puisqu'on sait que les poulets élevés en plein air et alimentés correctement sont de meilleure qualité à la fois pour la santé et même gustativement, quand même, ça compte. Alors que là, on est dans un processus complètement inverse. Ils prennent les choses complètement à l'envers et ils souhaiteraient interdire cet élevage en plein air pour se garantir finalement de donner des antibiotiques, des tas de merde aux poulets qui leur permettent de survivre et de leur donner de la merde à bouffer pour que nous, en fin de chaîne, on mange des poulets peut-être du coup qui n'ont pas la grippe aviaire mais qui sont juste dégueulasses quoi.
Il y a un vrai combat qui se mène au niveau mondial pour savoir si l'agriculture et l'alimentation vont rester entre les mains de millions et de milliards, en fait, de petits producteurs d'alimentation, des paysans et des paysannes, des pêcheurs, des peuples indigènes, ou pour savoir si tout ce secteur va être mis sous la coupe d'une poignée de multinationales, qu'elles soient américaines, européennes ou chinoises. Et ça, c'est notre combat à nous. C'est-à-dire que nous, et c'est ça aussi le sens de la souveraineté alimentaire. C'est la souveraineté alimentaire. L'idée, c'est qu'on garde le contrôle sur l'alimentation au niveau local et national et pas que ça parte entre les mains des entreprises multinationales.
Oui, parce qu'en fait, eux, ça les arrange d'avoir des grosses entreprises industries où tu as des millions de poulets ou des hectares entiers de céréales ou d'autres choses pour qu'ils se fassent un maximum de pognon et qu'ils s'accaparent l'entièreté des ressources communes, quoi, la terre, l'eau, ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça va complètement dans le sens des gros industriels.
Oui, et puis derrière l'alimentation, il y a un pouvoir énorme. En fait, chacun a besoin de manger tous les jours. Et donc, s'il y a quelques firmes qui détiennent tout le pouvoir sur l'alimentation, c'est un pouvoir absolument énorme. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir en fait le fait que ce pouvoir sur l'alimentation, il soit complètement déconcentré, il soit entre les mains d'un maximum de gens. Et alors, du coup, on considère que c'est beaucoup mieux si on continue à être des petits producteurs d'alimentation très nombreux dans le monde entier, plutôt que juste quelques multinationales de l'alimentation qui contrôlent tout. Mais pour ça, pour qu'on continue à être nombreux à faire le métier de paysan et de paysanne, il faut qu'on ait des conditions vivables. C'est pas possible que partout dans le monde, les paysans et les paysannes, on soit ceux qui avons les plus bas revenus. Là, à ce jour d'aujourd'hui, En France, en agriculture, pour beaucoup de gens, c'est normal qu'on soit payé 800 euros, largement en dessous du SMIC. Il n'y a pas d'autres métiers où les gens ils acceptent d'être à des niveaux de salaire aussi bas pour des heures de travail, des semaines à 60-70 heures. C'est des conditions de travail pas acceptables. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est un système économique qui est organisé de façon à exploiter les travailleurs de la terre de façon vraiment complètement éhontée. Et donc si on veut garder des paysans et des paysannes nombreux pour assurer une alimentation saine, on a besoin de défendre nos droits. On a besoin de défendre le fait qu'on a droit à des revenus décents, qu'on a droit à des conditions de travail décentes, qu'on a droit à de la sécurité sociale, qu'on a droit à une retraite, qu'on a droit à des congés maladie, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Quand on est paysan, même en France à l'heure actuelle, on n'a pas le droit à un congé maladie. Si on est malade, eh ben juste, si on reste chez soi, eh ben on n'aura pas de paye parce que pour déclencher un congé maladie à la mutualité sociale agricole, il faut 30 jours de maladie. Eh ben si on est malade 30 jours, enfin voilà ça. Alors, si on a une grippe, fort heureusement, normalement on n'est pas malade 30 jours, mais du coup on n'aura pas droit à une couverture maladie. Et donc ça, c'est terrible parce que c'est un des métiers les plus importants du monde, de faire en sorte que de produire une alimentation saine pour les autres gens. Mais voilà, on a besoin de se battre avec les populations des villes qui sont conscientes de l'importance de l'alimentation pour tout un chacun, pour faire en sorte d'améliorer nos conditions de travail.
J'en profite un petit peu puisque demain il va y avoir une grosse mobilisation aussi des secteurs du transport, des raffineries, bon, etc. À quand une jonction entre paysans et travailleurs pour un monde différent ?
Ah ben, elle est déjà faite. La Confédération paysanne appelle à la mobilisation parce qu'on considère que nous aussi on est des travailleuses et des travailleurs et on a le droit à un revenu correct, tout comme les autres travailleurs, ils ont droit à un revenu correct et pour ça il faut lutter pour. Eh ben nous, on rejoint ce front uni des travailleurs pour demander des rémunérations dignes. Et donc, on appelle à la mobilisation.
À la fois des rémunérations dignes et puis aussi un travail de qualité. Parce que ça aussi, c'est vraiment important. Parce qu'on voit aussi que plus ça va, on est dépossédé et qu'on ne trouve plus d'intérêt au travail qu'on fournit tellement il est pourri et qu'on n'est jamais consulté. Ça rejoint complètement tout ce que tu viens de dire.
Bah, en tant que paysan, on est assez persuadé de l'intérêt de notre travail. Enfin, je veux dire, au quotidien, produire de l'alimentation, c'est assez évident. Mais pour avoir un revenu digne, ce dont on a besoin, c'est de régulation des marchés. Parce que même si pour certains agriculteurs, il y a des aides PAC, mais en fait, ce qui fait la base du revenu de l'essentiel des paysans, et notamment des plus petits, moi je suis sur 1,3 hectare, j'ai pas droit aux aides PAC, c'est les prix auxquels on vend nos produits. Et ces prix-là, il faut qu'ils soient régulés. Il faut à un moment qu'il y ait des règles du jeu. Parce qu'autrement, les grands acteurs économiques qui sont beaucoup plus concentrés, l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution, ils imposent la plupart du temps des prix aux agriculteurs qui sont en dessous des coûts de production et qui ne nous permettent pas d'avoir un revenu digne. Et du coup, nous, ce qu'on demande, c'est des prix minimums d'intervention, de la régulation des marchés. Ce qu'on demande, c'est des stocks publics. Ce qu'on demande, c'est une réelle intervention de l'État dans tous ces mécanismes-là de marché pour faire en sorte qu'on ait des prix qui correspondent au coût de production et qui couvrent une rémunération digne. Et à l'autre bout, pour les consommateurs, on demande aussi ça. C'est-à-dire qu'on demande à ce que les marges des grandes entreprises elles soient encadrées pour que les prix auxquels les consommateurs achètent leur alimentation soient aussi liés au coût de production et que ce ne soient pas des prix qui s'envolent quand les entreprises qui contrôlent tout ce secteur ont décidé de faire de la spéculation et de se faire de l'argent finalement sur le blé et des paysans et des consommateurs.
Juste pour finir aussi, c'est que à chaque fois ce qu'on nous dit c'est oui mais enfin bon quand même l'argent ça se multiplie pas comme ça alors qu'on sait que la plupart de l'argent de la PAC elle va au plus gros et pas du tout au plus petit alors que ça devrait être l'inverse.
Ouais, en fait, ce que fait l'argent de la PAC, donc elle va essentiellement aux plus grosses fermes. Surtout, elle a un rôle qui est très négatif dans le sens où l'argent de la PAC, il sert à ce que les paysans puissent vendre leur production sous les coûts de production. S'il n'y avait pas les subventions de la PAC, on serait obligé de vendre au-dessus des coûts de production parce qu'on ne s'en sortirait pas du tout. Mais à l'heure actuelle, du fait des aides PAC, les aides PAC, elles ont servi à ça, voire c'était ça leur objectif, c'était de faire baisser les prix agricoles sous les coûts de production pour être soi-disant compétitif au niveau international. C'est très lié à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc si aujourd'hui, on enlève d'un seul coup les aides de la PAC sans remettre en place une régulation des marchés qui permet de lier les prix agricoles aux coûts de production, il va y avoir une grande partie, y compris des agriculteurs qui sont sur des fermes de taille moyenne, qui vont s'écrouler. Parce qu'en fait, au niveau des prix à l'heure actuelle, sous les coûts de production, sans les aides PAC, c'est pas économiquement tenable. La ferme France, elle est dans le rouge sans les aides PAC à l'heure actuelle. Mais ça, c'est une logique complètement qui a ni queue ni tête. Et en fait, il faudrait bien mieux que la politique agricole commune, ça cesse d'être une politique de distribution de primes pour faire baisser les prix agricoles, mais que ça redevienne ce que ça a été un moment dans les années 70-80, c'est-à-dire une politique de régulation des marchés où on fait en sorte qu'on produise suffisamment, mais pas trop, pour couvrir les besoins alimentaires des populations européennes, et si possible, ce qu'il n'y avait pas dans les années 70 et 80, qu'on produise à cette époque-là, tous les surplus, ils étaient balancés dans les pays du Sud avec des subventions aux exportations. Et ça, évidemment, on n'en veut plus. Donc voilà, on voudrait un système de régulation des marchés qui fasse en sorte qu'on produise ce dont on a besoin en Europe, si nécessaire qu'on échange avec d'autres pays, mais pas dans un but de détruire leur agriculture pour leur piquer leur marché, mais vraiment dans une attitude de solidarité internationale et d'échanges qui soient positifs réellement pour les deux côtés qui échangent. Je vous encourage à aller rejoindre des luttes paysannes quand il y en a dans votre région. Il y en a un peu partout, hein, ouais. Que ce soit des luttes contre l'accaparement des terres, beaucoup de luttes contre les bassines et l'accaparement de l'eau, des luttes pour des revenus dignes pour les paysans. Donc je vous encourage à nous rejoindre quand vous en aurez l'occasion.
On suit. Merci beaucoup Morgane Maraîchère, donc dans le Morbihan, qui est à la Conf et à Via Campesina, pour toutes ces informations.
Très bien, merci.
Super,
beaucoup.
Merci revoir, beaucoup à toi. Au revoir.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais. Des mécaniques, des instruments confidentiels, des réacteurs astronautiques, on va coloniser le ciel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais l'amour, la nuit comme le jour, je fais l'amour. Sur la comète, on inventorie le ciel bleu. On proclame des découvertes et les gens ne sont pas heureux. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais l'amour la nuit comme sont hydrauliques, les matelas sont aérés, la vitesse est supersonique et les voyages organisés. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les jeunes oiseaux chantent avec la lumière, et moi je fais l'amour la nuit comme le jour, je fais l'amour.
Nous poursuivons cette émission avec Yannick Ogor, qui faisait une intervention dans un village du centre-Bretagne, invité pour parler de son livre « Le paysan impossible ». Comment sortir de la confusion politique qui frappe le monde agricole ? Comment en révéler les antagonismes et y assumer le conflit de classe ? Yannick Ogor, éleveur et maraîcher en Bretagne, retrace la contestation agricole en France depuis 60 ans et ses tentatives et ses impasses.
L'idée, c'était de prendre le temps d'expliquer un peu comment sont construites les politiques agricoles et les contestations ont émaillé depuis presque un siècle cette construction de politiques agricoles vouées à l'industrialisation de l'agriculture. Pour moi, l'important, c'était qu'aujourd'hui, j'avais le sentiment que toutes les luttes soit des échecs, soit paradoxalement participer en fait à renforcer ce système industriel et qu'il y avait besoin de sortir en fait de ce que l'on pourrait appeler une confusion politique en matière d'agriculture et que j'ai écrit ce bouquin en plein pendant le mouvement qu'on a appelé le mouvement des Bonnéros, qui était un mouvement de réaction notamment du monde agricole à ce qui s'appelait l'écotaxe. Ça, c'était les apparences en fait de ce mouvement de contestation. Enfin, on a vécu pendant presque un an en fait de ce mouvement dans une confusion totale, c'est-à-dire qui a permis de manière assez incroyable de solidariser les ouvriers licenciés de l'agroalimentaire avec les grands patrons du système agricole breton. Et c'est même allé jusqu'à ce que les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se solidarisent aussi avec les manifs des Bonnets Rouges. Tout ça fabriquait un maelstrom assez nauséeux et peu lisible en fait. Ça me paraissait indispensable de remettre sur le devant de la scène les intérêts en fait, des différentes parties en présence et de comprendre pourquoi, par exemple, le mouvement des Bonnets Rouges s'était mis en place en 2015. Certes, il y avait l'écotaxe, ce mouvement est arrivé à un moment où le système agroalimentaire breton est en train de perdre énormément de subventions et que, en regardant en fait, la construction de quelles subventions étaient en train de perdre, en fait, on voyait en fait, tout le système historique de soutien public à l'agriculture se dévoiler. Et notamment, c'est pas pour rien qu'il y a eu ce mouvement en 2015, c'est que le 1er janvier 2015, en fait, toutes les subventions, les aides à l'exportation ont été supprimées par l'Union européenne. Ça m'a permis, en fait, dans le bouquin, de revenir en fait, sur, depuis 1960, la construction, enfin, ce qu'on a appelé les lois d'orientation agricole en France et la construction de l'Union européenne, de la politique agricole commune. De comprendre en fait comment l'administration a été une pierre centrale en fait de l'industrialisation de l'agriculture et comment elle a servi avant toute chose les intérêts des grands groupes industriels et que notamment ceux qui étaient dans la rue, ceux qui contestaient les politiques en 2015 sous la bannière des Bonnets Rouges, c'était le groupe Doux, les légumiers de la Cicade Saint-Paul-de-Léon, à tous ces grands groupes industriels qui étaient en train de licencier. Sous prétexte que les écotaxes allaient fabriquer une concurrence déloyale pour les Bretons, et qui sont beaucoup plus dépendants de la route pour vendre sa marchandise. Alors qu'en fait, l'histoire était celle d'un arrêt de subventions dont ces grands groupes ont vécu grassement pendant des décennies.
Donc en gros, si j'ai bien compris, si je peux me permettre d'interrompre, ils étaient en train d'utiliser une identité régionale bretonne pour continuer à participer à la mondialisation des l'arbre alimentaire.
Oui, et du coup, ils savaient très bien que l'arrêt de cette subvention était prévu depuis de longues dates, parce qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce, il avait été prévu que toutes ces aides-là, que tous les États dans le monde donnaient à ces grands groupes industriels, fabriquer de la distorsion de concurrence. Et là, ils ont utilisé un mouvement social régionaliste pour essayer d'obtenir des nouvelles aides. Parce qu'en fait, il fallait restructurer la filière et ils ne l'ont pas fait avant. Là, c'était l'occasion. En effet, ils ont obtenu, grâce à ce mouvement social, énormément d'aides publiques qui leur a permis de moderniser tout le système d'abattoirs, d'ateliers de découpe pour retrouver un aspect concurrentiel sur le marché mondial. Et ça a très bien marché. Et en même temps, ils ont licencié à gogo. En fait, le mouvement social ne s'en est vraiment pas pris au patron. En fait, d'un seul coup, c'était l'État le responsable. Et c'était l'État, tous les symboles de l'État qui ont été la cible des Bonnets Rouges systématiquement. Dans mon bouquin, je parle de fiction libérale pour expliquer un peu comment en fait, se fabrique cette opacité, cette confusion politique autour de l'agriculture. Fiction libérale, parce que d'un côté, on a le grand patronat de l'agro-industrie, la Cicade Saint-Paul-de-Léon, Doux, qui va sans cesse se plaindre de trop d'intervention de l'État. Donc là, c'était l'écotaxe. Et de l'autre côté, on va avoir la gauche, et la gauche paysanne notamment, qui va tout le temps dire qu'il n'y a pas assez d'intervention d'État. Mais en fait, la réalité, tout le temps, est jamais racontée réellement. C'est que quand les libéraux nous racontent qu'il y a trop d'État, derrière, on se rend compte que ça faisait des années qu'ils vivaient de subventions, d'argent public. Et grassement, c'était des aides à l'exportation, c'était des aides au stockage de la surproduction, c'était des aides à la destruction de la surproduction. Du coup, ces aides-là n'étaient réservées qu'aux grands groupes industriels. Les éleveurs, les petits maraîchers ne voyaient jamais la couleur de cet argent. En même temps qu'ils touchent des mannes financières incroyables, ils continuent à défendre un état d'esprit libéral et du coup à refuser, médiatiquement en tout cas sur la scène publique, à se battre contre l'interventionnisme de l'État. Alors qu'ils ont. Et à côté, la gauche paysanne en fait, refuse de regarder réellement, elle est persuadée en fait, qu'on va défendre l'intérêt général par l'interventionnisme de l'État. Or, ça fait des années, des décennies, que c'est l'État qui a fabriqué cette agriculture industrielle. Donc croire que plus d'État freinerait ce système-là est un leurre absolu. Et je l'ai vécu, moi, de l'intérieur, à la Confédération Paysanne à la fin des années 90, quand j'étais juste salarié, hein, j'étais pas militant. C'était le grand moment des mobilisations citoyennes pour dénoncer les conséquences environnementales de l'agriculture industrielle. Donc il y avait quasiment tous les mois des énormes manifs de 10 à 50 000 personnes pour dénoncer les nitrates dans les eaux de rivière, les algues vertes. Et la gauche paysanne, en fait, s'est alliée en fait, avec ce mouvement citoyen. Et en 97, il y a la gauche qui reprend le pouvoir avec Jospin, et du coup qui met Dominique Voynet, une écologiste au ministère de l'écologie, et Le Pain Sec au ministère de l'Agriculture, qui était un ancien agriculteur adhérent de la Confédération Paysanne. Donc d'un seul coup, ils se disent, tiens, on a deux alliés dans le gouvernement. Le mouvement environnementaliste qui pousse, on va en profiter pour faire passer des lois, et du coup, que l'interventionnisme d'État va mettre du grain de sable dans le rouage des grands groupes industriels. Et le comble, donc, il y a eu des lois de mise aux normes environnementales qui ont été portées par ce lobby de la gauche écologiste, dont la Confédération Paysanne. Et le résultat de ça, en fait, c'est pour ça que je parle de confusion politique, c'est que 5 ans après la mise en place de ces mises aux normes, tous les petits éleveurs ont été éliminés. Parce que le coût de la mise aux normes, en fait, était tel que seuls les gros ont pu assumer les efforts financiers nécessaires, et en plus c'était subventionné, ces mises aux normes, mais malgré le fait que ça soit subventionné, un petit, ça continue à lui coûter trop, de soi-disant derrière les meilleures intentions du monde d'affaiblir le système hors sol industriel, de fait, en fait, ces mises aux normes environnementales au nom de l'écologie, en fait, n'ont fait que contribuer à accélérer la concentration des productions et du coup l'industrialisation, et que ce système-là, cette confusion continue aujourd'hui. À la fin, en 2017, quand je finis d'écrire mon bouquin, il y a des nouvelles normes sur le bien-être animal qui sont votées au niveau européen, qui vont permettre en fait d'interdire l'élevage en matière de volaille, l'élevage en cage. Et ça, on pourrait dire encore une fois, les meilleures intentions portées par une gauche écologiste, soucieuse des rapports à l'animal, ont gagné, il y a une victoire. Et la chose la plus étrange là-dedans, c'est et paradoxal, on pourrait penser de loin, je lis Ouest France à ce moment-là, qui annonce le truc, il y a une interview du directeur du groupe Avril. Le groupe Avril, c'est la plus grosse multinationale agroalimentaire française, donc une leader en matière de oléoprotéagineux, de céréales, de cochons, de volailles. Enfin, c'est vraiment un énorme groupe qui s'est construit lui aussi sur les subventions européennes à l'exportation, années 60, 70, 80. Et ce directeur-là, en fait, se satisfaisait de cette loi qui allait interdire l'élevage en cage. C'est incroyable, en fait, soi-disant cette loi a été faite pour affaiblir ces grands groupes, et en fait c'est eux qui s'en satisfont. Ils s'en satisfont tout simplement parce que, de même que les mises aux normes environnementales en Bretagne ont affaibli les plus petits, le groupe Avril savait très bien que les seuls qui allaient suivre les nouvelles mises aux normes au nom du bien-être animal, ce seraient les plus gros, et qu'ils allaient faire à nouveau des économies d'échelle, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est moins il y a d'éleveurs, moins il y a de trajets pour amener l'aliment, pour aller chercher les volailles et les amener à l'abattoir. Du coup, ils font tout le temps des gains de productivité. En plus, on sait très bien que la fin de l'élevage en cage, en fait, est un leurre, un gain réel pour le bien-être animal, parce qu'on continue à autoriser les poules à vivre sur un espace d'équivalent d'une papier A4, mais ça serait plus enfermé entre quatre murs de cette taille-là, mais entassés les uns sur les autres. Et on ne change pas grand-chose à la qualité de vie d'une volaille. Les discours évoluent et les rouages des politiques agricoles changent aussi. Moi, j'essaie d'expliquer dans mon bouquin qu'il y a un peu deux phases, en fait, depuis les années 60 dans les politiques agricoles. Il y a eu ce que j'ai appelé les gestions par les crises économiques. Donc c'est ces aides à l'exportation, au stockage des surproductions, à la destruction des surproductions. Donc 60, 70, 80, 90, donc ça a été les 4 décennies à peu près où l'agriculture a vécu, et les grands groupes industriels ont vécu de ce type de subvention. 2015, quand il y a les bonnets rouges, c'est en fait la fin de la diminution de ces aides-là, qui ont été remplacées petit à petit par d'autres systèmes, et donc notamment à partir de 92, il y a un système d'aide directe à l'agriculture, aux agriculteurs qui l'a mis en place à partir de 92. On va quitter petit à petit le système de gestion par les crises et rentrer dans un système de gestion par les normes. D'un seul coup, toutes ces subventions là et toutes les interventions de l'État en termes réglementaires vont toujours être au nom des normes du bien-être animal, de l'environnement ou du sanitaire. Depuis qu'il y a des aides directes aux agriculteurs, en fait, les fermes n'appartiennent quasiment plus aux éleveurs eux-mêmes. C'est l'État a droit de vie et de mort en fonction des réglementations normatives en fait, et des subventions qui vont avec sur chaque ferme. Et que du coup, petit à petit, en fait, tout ce système de normes qui était censé lutter contre la pollution, pour la santé des consommateurs, en fait, dans les faits, toutes ces normes sont en train d'éliminer en fait, les dernières fermes qui cherchent un peu de l'autonomie et qui cherchent à rester un peu en retrait, en dehors du mode de production industriel. Le comble aujourd'hui, c'est au nom des normes sanitaires, on est en train de, en élevage de volailles et de cochons qui subissent en fait les menaces virales. Pour la volaille, c'est la grippe aviaire, pour les cochons, c'est la peste porcine africaine qui n'est toujours pas. Pour la peste porcine, elle est toujours pas arrivée en France. Ce qu'on appelle aujourd'hui des normes de biosécurité qui sont en train de se mettre en place de manière drastique en France, en Europe et partout dans le monde. C'est un nouveau mode de gestion de l'agriculture et qui a un effet absolument dévastateur. C'est-à-dire que ces normes-là, en fait, par exemple, si on prend la volaille, donc ça fait bientôt plus de 10 ans qu'à travers le monde, il y a des épidémies à répétition de grippe aviaire. La réponse de tous les pouvoirs publics, c'est pas qu'en France, en fait, c'est de fait l'élimination de tous les éleveurs en plein air parce qu'ils sont accusés d'être en contact avec la faune sauvage. La propagande officielle, que ce soit les institutions internationales ou françaises, nous raconte que la propagation des virus, notamment la grippe aviaire, se fait par la faune sauvage, par les oiseaux migrateurs. Or, on sait très bien, et ça a été démontré de mille manières, que la propagation de ces virus est avant tout liée au système industriel. C'est-à-dire que les animaux sont fragilisés par le mode de sélection, le mode de vie en milieu concentrationnaire. Il y a une circulation de l'aliment, des animaux vivants et des animaux morts liés à ce système mondialisé industriel. Et que c'est tout ce fonctionnement-là en fait, qui augmente la capacité de propagation de ces maladies. Et on continue à accuser les élevages vivriers en Asie du Sud-Est ou les élevages en plein air en France d'être les principaux responsables. Et c'est eux, du coup, qui subissent des mises aux normes absolument intenables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élevage en plein air de volailles est devenu de fait légalement impossible en France, puisque depuis 2 ans, ça fait la deuxième année là, où les éleveurs de volailles en plein air n'auront eu droit de sortir leurs animaux que 4 mois sur 8, sur 12. Et ça devient une blague d'appeler ça du plein air. C'est surtout que ça devient très compliqué. Un système plein air a sa propre logique, en fait, notamment de sanitaire, de soins aux animaux, et que le mode d'élevage lui-même est un mode qui permet en fait, aux animaux d'être moins sujets à plein de maladies, parce qu'ils ne sont pas enfermés les uns sur les autres. Et que d'un seul coup, un système comme ça, qui du jour au lendemain est obligé d'entasser des animaux sur des espaces petits, parce que quand tu es en plein air, tu n'as pas la surface de bâtiment pour accueillir tout le monde sur des longues durées. Donc on est en train de fragiliser aussi sanitairement en fait, ces élevages-là. Et en fait, tous les éleveurs qu'on rencontre sont complètement déprimés, sont en train de perdre le sens de ce qu'ils font, et qu'il y a de plus en plus de démissions, en fait, de gens qui arrêtent. Et en élevage de cochons, la situation est en train de devenir la même. Sauf que là, on se rend compte que, alors que la maladie, le virus, n'est pas encore en France, il y a une telle pression administrative dans ces filières-là qu'en Bretagne, par exemple, quasiment la totalité des éleveurs se sont mis déjà aux normes de biosécurité. Et les normes de biosécurité, quand tu es éleveur de cochons en plein air, c'est la mise en place d'une triple clôture pour empêcher le contact, qui disent de groin à groin, avec les sangliers qui sont porteurs de la maladie et sujets à la propager. Sauf que là aussi, on sait partout, en France, il n'y a pas cette maladie. En Belgique, la maladie est arrivée en 2018. Et quand on fait l'historique de cette maladie, c'est pas du tout les cochons sauvages qui ont propagé, parce qu'en fait le lieu le plus proche contaminé à la peste porcine du sud-ouest de la Belgique qui avait été touché, c'était en Pologne, à plus de 2000 km. Donc c'était une blague de nous raconter que c'était des sangliers sauvages qui auraient trimballé. Donc il y a eu quand même une enquête de savoir d'où venaient des maladies, parce que c'est sur les sangliers qu'elle avait été trouvée en Belgique. Et en fait, il a été démontré que c'était des chasses privées, de grands bourgeois belges, en fait, qui importaient illégalement de Pologne, zone contaminée à la peste porcine, des sangliers pour des la trophées chasse. De chasse. Et que en Roumanie, quand la peste porcine est arrivée en 2007, donc c'était une des premières fois que ça arrivait en Europe depuis des décennies, là aussi a été démontré que ce n'était pas du tout la faune sauvage qui était vecteur de porteur, enfin une propagatrice de cette maladie, que c'était arrivé dans le plus gros élevage de cochons industriels d'Europe, qui appartient au groupe Smithfield, qui est le plus grand groupe international de producteurs de cochons, qui était américain, qui vient d'être racheté par les Chinois aujourd'hui. Et c'est ce groupe-là, c'est lui qui a amené la peste porcine en Roumanie. Et le comble de cette histoire-là, c'est que, parce que normalement, peste porcine, dans tous les pays du monde, dès qu'il y a une maladie comme ça contagieuse, il y a abattage préventif des troupeaux. Là, l'État roumain a mis un an avant de pouvoir abattre les cochons de cet élevage, parce que le gros Smithfield avait mis en place des milices privées, qui a armé, qui a empêché les fonctionnaires de l'administration agricole roumaine d'intervenir sur le lieu. Et pendant ce temps, en fait, par contre, ils ont mis en place une politique de biosécurité à l'échelle du pays, où tous les élevages usuriers, et en Roumanie, il y avait encore, dans les années 2000, énormément de familles qui continuaient à élever leurs cochons, leurs volailles. Tous ces élevages-là ont été éliminés. Et en 2013, parce qu'il faut savoir que quand un pays est touché par un virus comme celui-là, que ce soit la grippe aviaire ou la peste porcine, il perd son agrément à l'export, dans l'idée qu'il ne faut pas que la maladie se propage de pays en pays. Donc il y a un enjeu économique énorme, en fait, à pouvoir déclarer le pays indemne de maladie. C'est pour ça qu'ils font des efforts d'élimination complètement délirants, préventifs. Ce qu'ils ont fait en Chine aussi il y a 2 ans, ils ont supprimé la moitié des cochons en Chine. C'est quand même colossal, c'est des centaines de millions d'animaux qui sont euthanasés. Et tout ça pour retrouver le plus vite possible l'agrément à l'exportation. Ce qu'a obtenu du coup la Roumanie en 2013. Et le comble, c'est qu'en 2007, donc quand Smithfield apporte la maladie dans ce pays, il possède 20% du marché de la production porcine roumaine. En 2013, quand il retrouve le droit d'exporter, Smithfield possède 70% de la production porcine du pays. Donc on voit à quel point ces politiques sanitaires de biosécurité sont des vecteurs d'accélération des processus de concentration capitalistique et d'élimination des derniers élevages qui cultivent un peu d'autonomie, et un peu de résistance aussi au modèle industriel. Et c'est en train de se passer en France aujourd'hui, puisque en cochon, par exemple, en Bretagne, donc ils sont soit tous en train de mettre en place la triple clôture, mais il y en a peu qui le font, parce que c'est des surcoûts gigantesques. Enfin, certes, la France annonce qu'il y a des subventions, mais il reste toujours 30 ou 40% à payer. Et non seulement il faut payer cette clôture-là, qui n'apporte rien en termes de qualité de travail et de meilleure vie avec les animaux. Mais par contre, c'est un travail d'entretien aussi, parce que c'est des clôtures électrifiées. Du coup, ben, il faut passer la débroussailleuse régulièrement. Donc, la plupart des éleveurs en plein air travaillent beaucoup plus que des éleveurs en bâtiment, parce que voilà, la vie avec les bêtes est un peu plus complexe, plus heureuse, mais aussi il y a moins d'économie de travail. En fait, la plupart ne font pas l'investissement de la triple clôture. Ils choisissent soit d'arrêter l'élevage de cochons, soit ils passent tout en bâtiment. Et du coup, là, on a une vitesse grand V, on est en train de faire disparaître l'élevage de plein air de cochons en Bretagne. Ça résiste un peu plus dans le sud de la France, parce qu'il y a une culture d'élevage en plein air, notamment en zone de montagne, où le cochon se trouve très bien en zone de montagne, parce qu'il va pâturer les sous-bois, manger les glands, les châtaignes. Et du coup, c'est un mode d'élevage traditionnel qui a encore énormément de place. Et là-bas, il y a vraiment l'idée de résister à... Parce que de toute façon, c'est impossible de rentrer en bâtiment. Ils perdraient toute la logique d'alimentation, parce que c'est vraiment des systèmes de pâturant. C'est-à-dire que les cochons pâturent vraiment, alors qu'en Bretagne, les systèmes en plein air, ce n'est pas des systèmes où les cochons vont se nourrir des pâtures. C'est plutôt que voilà, ils sont en plein air tranquille, mais l'alimentation apporte d'ailleurs. Et du coup, qu'il n'y a pas un grand changement de système en mettant en bâtiment, sauf que enfin, moi personnellement, il est hors de question que je mette mes cochons en bâtiment. Mais voilà, il y en a plein qui sont en train d'abandonner. Tout ça se passe dans un silence de problème, parce que comme avec le Covid pour les humains, c'est au nom de la santé de tous, donc on accepte tout. Enfin, tout le monde est en train d'accepter dans le silence des pertes de liberté gigantesques, en fait.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the car to take us over the road.
Les mobilisations sont très réduites. Alors nous, on va essayer. Là, on a un groupe. Il y a eu une manif à Rennes il y a 3 semaines, à l'initiative des éleveurs de volailles, donc elles se sont rejoints, qui ont été rejoints par des éleveurs de porc. C'est une manif régionale. Bon, il n'y avait pas une foule démesurée. Je ne sais plus combien il était.
200.
200. Mais ben, c'était quand même la première fois. Alors que ces politiques-là, en fait, ça fait 4-5 ans qu'elles commencent à être drastiques. Et ça fait voilà, 4-5 ans, une petite manif. Mais du coup, on s'est dit, voilà, il y a un groupe qui continue à essayer d'imaginer d'autres types d'interventions pour ne pas disparaître dans le silence des campagnes absolument terrifiant, quoi. Mais c'est très compliqué parce que le monde paysan, et notamment du plein air, est vraiment pas très nombreux en fait en Bretagne. Et du coup, s'il n'y a pas le relais d'autres classes sociales, d'autres secteurs d'activité, en fait, on est voué à disparaître. Sans réussir à freiner cette logique-là, et que c'est important qu'on arrive à faire comprendre la logique sanitaire, que ce terme de biosécurité est un terme d'élimination programmée de la petite agriculture. Et c'est même inscrit dans. Il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de l'élevage, l'OIE, qui d'ailleurs a changé de nom depuis quelques années, qui s'appelle l'Organisation internationale de la santé animale. Donc on voit bien en fait à quel point la question sanitaire est devenue centrale dans la question de l'élevage. Et du coup, cette Organisation internationale de l'élevage, de la santé animale, a mis en place une classification de tous les élevages à travers la planète en fonction de son niveau de biosécurité. Donc il y a un niveau 1, 2, 3, 4, 4 catégories. Le niveau 1, c'est le top de la biosécurité. Et le niveau 4, c'est les systèmes très faibles en termes de biosécurité qui sont annoncés dans la charte de l'OIE, les États adhérents à l'OIE doivent faire disparaître ce niveau 4. Tu regardes, c'est quoi le niveau 1? Le niveau 1, par excellence, c'est en Chine. Eux qui ont subi la grippe aviaire et la peste porcine de plein fouet ont mis en place des systèmes d'élevage aujourd'hui complètement délirants, où, par exemple, pour pénétrer un élevage de volailles ou de cochons, les salariés sont mis en quarantaine pendant une semaine avant de pouvoir commencer à travailler dans l'élevage, et pareil à la sortie. Donc ils vont travailler par section de 1 mois et demi, 2 mois. Ils vivent dans des hôtels à l'intérieur de l'usine à cochons ou de l'usine à volailles. Ils n'ont pas le droit de sortir. Et quand ils sortent à la fin de leur session d'1 mois et demi de boulot, ben, ils repassent par la case SAS sanitaire pendant une semaine pour se décontaminer et avoir le droit de rentrer en contact avec la population. Dans ces systèmes fermés, l'air est filtré, soi-disant stérilisé, quoi. Donc c'est des systèmes complètement fous, enfin, c'est des bulles écologiques délirantes, des bulles industrielles, quoi, de production de bidoche. Donc ça, c'est le niveau 1. Et l'histoire est bien faite, c'est que l'OIE, donc l'Organisation internationale de l'élevage, a décidé que les seuls, en cas d'épidémie dans un pays, les seuls qui ne perdront pas l'agrément à l'exportation, c'est ceux qui seront au niveau 1 de biosécurité. D'où la négociation qui s'est passée ces dernières années entre le lobby porcin et volailler breton via Macron et les Chinois, parce que les Bretons exportent énormément de volailles et cochons en Chine, notamment depuis qu'il y a eu des éliminations programmées en Chine de volailles et de cochons à cause de l'épidémie. La Chine n'est plus du tout autosuffisante en cochons et volailles, donc le lobby breton est d'autant plus intéressé au marché chinois. Et du coup, le lobby breton a négocié avec Macron et Xi Jinping, je crois, le président chinois, qu'en cas d'épidémie, les bâtiments en niveau 1 de biosécurité en Bretagne conserveront le droit à l'exportation en Chine. Ce qui n'est pas rien, parce que la peste porcine arrivée en Allemagne là, depuis l'année dernière, l'Allemagne n'a pas eu le réflexe du lobby breton de négocier avec les Chinois le maintien de l'agrément d'exportation pour les bâtiments de niveau 1 de biosécurité. Du coup, L'Allemagne est en crise complète au niveau de la production porcine parce qu'elle a perdu ses droits d'exportation en Chine. On va essayer de fabriquer un peu de résistance à ces normes de biosécurité. Là, on a une idée, c'est d'organiser les journées mondiales de l'agriculture normale. On va peut-être faire ça à Redon. Et l'idée de reprendre le terme d'agriculture normale, en fait, c'est qu'on s'est habitué au fil du temps à accepter la normalité du mode de vie, du mode de production industriel, qui est absolument déliant. Enfin, c'est déliant ce qui se passe en matière de biosécurité aujourd'hui, d'abattage systématique de millions d'animaux, tout ça est anormal. Mais c'est devenu normal dans l'esprit général.
C'est un manque de respect du vivant, tout ça.
Et que nous, notre normalité, nos pratiques de tuer mes brebis à la ferme, de tuer la volaille à la ferme et de vendre en direct, c'est devenu illégal alors que ça fait partie de la plus simple normalité, la plus évidente. Et on perd la mémoire. Donc, par exemple, les éleveurs de volailles, il y a beaucoup d'éleveurs de volailles qui étaient encore en activité il y a 20-30 ans. Donc la plupart, les jeunes, n'ont même pas en mémoire qu'encore en 1999, il était possible, quand tu élevais une centaine de volailles chez toi, de tuer dans ta cuisine, de plumer, de découper s'il fallait, et de vendre sur le marché. Ça, c'est devenu illégal au début des années 2000. Et en rendant ça illégal, en fait, on interdit les petits élevages. Parce que forcément, si tu es obligé d'acheter, soit de passer par l'abattoir, soit de toi fabriquer un abattoir aux normes, un atelier de découpe sur ta ferme, ça te coûte un bras. Et forcément, tu t'agrandis. Et du coup, tous ces systèmes de normes, en fait, ont empêché que subsistent des petits éleveurs. Moi, mon petit troupeau ridicule de brebis, j'en ai eu jusqu'à 70 et j'en ai plus que 30. Mais il est rentable, en fait. Il est rentable juste parce que je pratique une agriculture illégale d'abattage et de découpe à la ferme. Si je devais passer à l'abattoir, économiquement, on n'en a plus d'intérêt. Ça, je vends à peu près 200-220 euros la bête en vente directe. Si je l'amène à l'abattoir, c'est à 50 km de chez moi, donc ça fait deux fois 100 km. Donc je vais faire autant de kilomètres pour amener deux bêtes qui vont me coûter du coup 50 euros d'abattage des coupes, sur lequel je vais récupérer moi 200-220 euros. Donc je perds un quart de la valorisation. Et aujourd'hui, si je regarde ma rémunération, c'est mon revenu. Mais tout ça est interdit. Et on a perdu la mémoire de quand est-ce que ça a été interdit cette histoire-là et au nom de quoi. Aujourd'hui, on est tellement bercé de discours hygiénistes permanents qu'on a l'impression que c'est de la normalité que c'est à soi interdit. Les éleveurs qui pratiquent l'abattage et la découpe à la ferme fabriquent beaucoup moins de risques sanitaires qu'un abattoir concentrationnaire qui accueille des bêtes, des millions, des centaines de milliers de bêtes, tous porteurs de maladies diverses, dans un milieu concentrationnaire où ça tue à la chaîne. Forcément qu'il y a des risques sanitaires beaucoup plus importants que quand tu le fais chez toi. En invitant les gens à une journée mondiale de l'agriculture normale, ça serait de remettre la normalité à l'endroit, en fait, d'arrêter de considérer le délire industriel comme normal et d'arrêter de considérer comme illégal la moindre évidence d'une normalité issue de la nuit des temps. Enfin,
pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.